BS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment en ligne.
Le Musée océanographique de Monaco a pour mission de faire connaître, d'aimer et de protéger les océans. Et lorsque j'ai rencontré avec Suzanne O'Connell, qui est mon associée australienne, qui a une galerie à Brisbane, lorsque nous avons rencontré le directeur du musée il y a à peu près 11 mois maintenant, il nous a proposé d'investir le musée avec des œuvres d'Australie. Et évidemment, la question qui s'est posée immédiatement, c'est comment faire dans un établissement aussi important. C'est un musée qui a été construit en 1905, qui a un immense bâtiment constitué de l'aquarium de Monaco, qui est mondialement connu, d'un rez-de-chaussée avec un salon d'honneur, d'un étage avec des collections très anciennes du prince Albert Ier, qui était l'arrière-grand-père d'Albert II, et un toit magnifique qui domine la Méditerranée, une terrasse qui culmine à 85 mètres au-dessus de la Méditerranée, qui est absolument splendide. Et l'idée a tout de suite été de faire intervenir des communautés, des régions côtières et plus principalement de l'État du Queensland. Nous avons consulté un certain nombre de communautés, un certain nombre d'artistes, de marchands, de galeries, etc. Et nous avons proposé au musée 6 projets monumentaux, 6 projets exceptionnels d'une envergure jamais réalisée jusqu'à présent, allant de l'installation d'une dizaine de sculptures monumentales sur le parvis du musée, avec des sculptures bagou de la communauté de Giringoun, près de Cardwell. Ce sont des grandes figurines de 3 à 5 mètres de haut. Nous avons aussi fait appel à un artiste du Trois-Torres qui s'appelle Brian Robinson, représenté par Creative Move à Brisbane, et qui, lui, a réalisé 3 grabes gigantesques qui gravissent la façade du musée, ces grabes qui font plus de 4 mètres d'envergure. Nous avons eu la chance de pouvoir travailler avec notre artiste du Détroit qui s'appelle Alic Tipoti, mondialement connu, et dont la fonderie UAP à Brisbane a permis la réalisation d'un dugong absolument magnifique en bronze et nacre, qui est situé à l'entrée du musée. Et avons réalisé avec 3 communautés une installation absolument inédite, la plus grande jamais réalisée jusqu'à présent, située dans le salon d'honneur du musée, une installation qui s'appelle Ocean Life, la vie de l'océan. Et c'est en fait une réalisation de sculpture qui pose la question de la pollution. Ce sont des sculptures réalisées uniquement en filets de pêche recyclés. Ces filets de pêche, on les trouve malheureusement abandonnés sur les rivages du nord de l'Australie, principalement dans le golfe de Carpentarie, et également sur les côtes du Cap York et dans les îles du Trois-de-Torres. Les chalutiers notamment, qui ont des grands filets, ces fameux filets dérivants qui peuvent faire 20 km de long, s'accrochent au fond marin, sont parfois usés et coupés par les hommes, et abandonnés en pleine mer, ils flottent, ça devient des filets fantômes, et ils échouent sur les rivages, après avoir souvent endommagé les fonds marins, mais aussi tué un certain nombre d'animaux. Pour les habitants du Cap York, mais aussi pour les insulaires du Trois-de-Torres, nombre de ces animaux, que ce soit le dugong, les tortues marines ou encore les poissons-ci, sont souvent aussi des animaux totémiques. Cette pollution marine, ces débris marins flottants qui tuent ces animaux, mettent en danger également la culture de ces peuples du nord de l'Australie. Nous avons donc collaboré avec 3 communautés, la communauté d'Eroube, Eroube Arts, sur l'île de Darnley, l'île d'Eroube, près dans le nord du Trois-de-Torres, mais aussi avec la communauté du Cap York, Pampurao, située en pleine terre, une communauté aborigène, ou encore une communauté d'Australie du Sud, qui a travaillé sur le thème également de la baleine en filet de pêche avec Chidira la baleine. Donc cette installation est absolument spectaculaire, plus d'une trentaine d'œuvres, avec notamment autour d'un filet de sardines, des bandes de sardines, il y a 1450 sardines accrochées au plafond, qui sont l'œuvre à la fois d'artistes.
Vous avez dit 1450 sardines, mais en quel matériau ils ont été confectionnés?
Tous en filet de pêche.
En filet de pêche.
L'intégralité en filet de pêche recyclé. Donc c'était une initiative de Lynette Griffiths, qui est directrice artistique de la communauté d'Eroube, qui a eu l'idée de faire un appel sur Facebook et qui a demandé à différentes personnes de collaborer à cette installation. Elle a envoyé des petits paquets avec des filets de pêche, pardon, par la poste à un certain nombre de personnes qui en faisaient la demande, en ayant en retour 5 sardines par contributeur. Et les gens lui ont renvoyé ces sardines qu'elle a ensuite cousues sur d'autres filets de pêche. Et ça a été une réalisation absolument incroyable. Donc l'installation Ocean Life est vraiment l'une des installations phares du musée, mais ce n'est pas la seule, puisqu'après on continue dans les escaliers majestueux du musée, où là on a une énorme coiffe cérémonielle, enfin trois coiffes cérémonielles réalisées par Kent Adai, qui est un grand artiste du Roi de Torres, en collaboration avec un artiste de Sydney qui s'appelle Jason Christopher. Ces coiffes cérémonielles caractéristiques du Détroit, qui sont des immenses coiffes de 7 mètres de haut, aluminium et plexiglas. Cette coiffe cérémonielle encadre la porte principale du musée et est entourée de deux coiffes de 5 mètres de haut avec des étoiles filantes. C'est une œuvre absolument magistrale et qui donne accès dans les autres espaces du musée où sont présentées également une collection d'art océanien et d'autre part une collection de peintures du désert dans une exposition qui a été, dont le commissaire est Erika Izette et qui parle justement de toutes les thématiques de l'art aborigène contemporain en ayant des thématiques aussi riches que la question des pays d'eau salée, des pays d'eau douce, de la lumière dans l'art aborigène, et présente aussi une sélection d'œuvres d'art aborigène du prince, de la collection privée du prince Albert II. Donc c'est une exposition très très riche et qui se termine par une œuvre absolument extraordinaire sur le toit terrasse du musée où les visiteurs peuvent se promener. Une installation de 574 mètres carrés représentant une immense tortue marine d'après une linogravure d'Alix Hippoty et qui représente non seulement cette tortue solale, mais aussi un certain nombre d'animaux en danger dans le détroit de Torres. Donc l'installation est absolument magistrale. Elle va durer jusqu'au 30 septembre de cette année. Donc on a 6 mois à peu près pour aller voir cette exposition. Et bien sûr, le pic de la saison touristique étant plutôt notre été européen. Donc à partir du mois de juin jusqu'en septembre, nous attendons plus de 8000 visiteurs par jour sur les périodes les plus importantes. Donc entre 500 et 600 000 visiteurs sont attendus à Monaco, au musée océanographique.
Oui, et c'est une exposition qui a été parrainée par le prince Albert II en personne et qui a absolument une extension aussi en France.
Absolument. Nous avons eu la chance de pouvoir présenter un certain nombre d'œuvres au musée, mais aussi de faire venir des danseurs, les Ugubal Dancers, qui ont joué un rôle absolument fondamental dans le succès de cette semaine inaugurale. Et nous avons eu la chance de pouvoir contribuer à la réalisation d'un spectacle qui a eu lieu au musée des Confluences de Lyon avant-hier et qui a été un vrai succès. Donc le musée des Confluences de Lyon a signé un partenariat avec le musée océanographique de Monaco pour pouvoir justement contribuer à l'enrichissement des projets les uns avec les autres, notamment autour de l'Australie. Et je tiens à remercier particulièrement le gouvernement australien pour son soutien, sans lequel cette exposition n'aurait pas pu voir le jour. Nous avons été soutenus par le fonds Catalyst du ministère des Arts et de la Culture, ainsi que par différents organismes tels que l'Australia Council for the Arts, et également par les autorités régionales du Trois de Torres, ou encore l'État du Queensland. Et je voudrais rendre un hommage tout particulier, mais vraiment tout particulier, aux donateurs privés qui nous ont vraiment permis de démarrer cette exposition. Il faut savoir qu'une exposition, c'est à peu près 150 personnes qui ont été impliquées dans la réalisation de cette manifestation d'importance. Et je voudrais remercier notamment nos amis de Melbourne, Myriam Boisbouvier-Willy, ainsi que son époux John Willy, qui ont été les tout premiers à croire en cette aventure et à nous aider à nous permettre la réalisation notamment de cette installation avec les filets de pêche, avec Ocean Life. Donc, je voudrais remercier vraiment du fond du cœur Myriam Boisbouvier-Willy et son mari pour l'aide apportée, car ce soutien que nous avons reçu en Australie de la part de la communauté française et monégasque a été très très important. Et je tiens vraiment à les remercier du fond du cœur. Je voudrais aussi remercier les autres donateurs privés et institutionnels qui nous ont aidés. Pour une expo comme ça, elle se fait avec l'énergie de tout le monde. Et cette énergie, elle a été notamment portée aussi par l'ambassadeur d'Australie en France et à Monaco, son Excellence Stephen Brady, qui a mis toute son énergie avec les équipes de l'ambassade pour que cette manifestation d'envergure et vraiment, je veux dire, d'excellence puisse voir le jour.
Et vous avez pu réunir à Monaco, donc pour l'ouverture, donc le vernissage de cet événement, la cinquantaine d'artistes, dont des personnes qui n'avaient jamais quitter l'Australie. Quelle a été leur réaction et quel sera l'impact pour leur art?
Leur réaction a été assez étonnante. Vous savez, lorsque j'ai monté cette exposition avec Suzanne O'Connell, on a eu énormément de discussions avec les uns et avec les autres. C'est un format d'exposition un peu particulier puisqu'il fallait réaliser l'ensemble de des installations en moins d'un an. C'était uniquement pour notre partie des œuvres de création. Donc c'était un challenge technique et financier. Et les communautés ont vraiment joué le jeu. Les artistes ont joué le jeu. Il a fallu un petit peu de discussion, d'explication. Tout ça est très loin. Vous savez, l'île des Roubes ou l'île de Badou, par exemple, où viennent respectivement les communautés des Roubarts ou encore des artistes comme Aliti Poti, sont des communautés insulaires d'à peu près 400 personnes. Donc bien évidemment, l'idée d'arriver à Monaco, le nom de Monaco résonne, mais les gens n'ont pas d'idée physique, matérielle de ce que peut être Monaco. Les gens ont été bluffés. Je crois qu'en arrivant, les gens ont été bluffés par la beauté des lieux. Le musée océanographique est situé sur le rocher de Monaco, à deux pas du palais princier et à côté de la cathédrale. C'est un emplacement absolument extraordinaire, unique au monde. Et je crois que lorsque les artistes sont arrivés et qu'ils ont pu installer leurs œuvres et que les œuvres ont pris corps avec l'espace, il y avait un vrai sentiment de fierté. Et tout ce qui est ressorti de cette semaine, quinzaine d'installations, ça a été, je crois, de la fierté, du plaisir d'être là, du plaisir de partager, du plaisir aussi d'avoir une voix vers le monde et de pouvoir poser ces questions environnementales, mais aussi ces questions culturelles d'une façon forte dans un lieu aussi emblématique. Et le fait d'être arrivé comme ça, on a eu de la chance, il n'a pas fait trop froid, ni trop mauvais, on a une journée de tempête, mais sinon le reste du temps il a fait un bleu magnifique. Donc je crois que pour nos amis venant des régions tropicales, le choc n'a pas été trop difficile. L'expérience a vraiment été formidable. En ce qui concerne la répercussion sur leurs œuvres, bien évidemment c'est une exposition non commerciale, puisque c'est une exposition au musée. En revanche, si des visiteurs sont intéressés par l'acquisition d'œuvres ou que des institutions souhaitent également devenir propriétaires d'œuvres, ils sont bien évidemment les bienvenus pour me contacter ou entrer en contact avec moi et je faciliterai la transaction. Les répercussions vont être considérables, des catalogues vont être produits, des articles de presse sont déjà en train d'être publiés et des reportages sont en cours qui vont donner ainsi une visibilité absolument incroyable et exceptionnelle à des communautés qui, pour certaines, n'avaient jamais exposé hors d'Australie. L'idée étant qu'au bout de 6 mois, nous puissions justement faire un bilan. Et je crois qu'il y a déjà d'autres opportunités qui sont en train de germer. Je ne peux pas en parler à la seconde, mais je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour en reparler, parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 projets absolument fondamentaux qui sont en train de se déclencher et qui sont des conséquences directes de ce projet. Donc je vous propose de se reparler dans quelques mois pour faire un point sur les résultats de cette magnifique exposition. Je voulais aussi préciser que nous avons fait un site dédié à l'exposition qui se trouve sur www.artaustralie.com et vous aurez une page spécifique liée à Monaco et aux différents projets. Donc vous retrouverez en détail l'intégralité des projets avec des photos de l'installation et avec le détail des œuvres.